Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Laurent Gérard est avec nous dans quelques minutes, mais tout de suite, 8h41, la revue de presse Amandine Bégaud, que tous les rondouillards tendent l'oreille. Car ce ne serait pas.
Même.
Mais oui, tous. Car ce ne serait pas manger sucré qui fait grossir, mais boire sucré. Je vous écoute.
Oui, oui, c'est ce que j'ai découvert ce matin dans les pages santé du Figaro. Le journal s'intéresse aux résultats d'une étude et qui a été menée par des chercheurs chinois. Mmh. Ils ont donné, écoutez bien, des sucres ajoutés à des souris, soit dans l'alimentation, soit dans la boisson. Dans les deux cas, dans les deux groupes, la même proportion. Le sucre ajouté représentait 73% de leurs apports caloriques. Bilan. Au bout de 8 semaines, les souris qui avaient bu sucré ont grossi. On observe une nette prise de poids, une augmentation aussi de leur masse grasse. Les chercheurs se sont par ailleurs aperçus que les souris qui boivent sucré avalaient chaque jour plus de calories que les autres. Les sucres liquides ouvrent en effet l'appétit. À l'inverse, chez celles qui mangent sucré, pas de prise de poids. Alors, pas de quoi pour autant conclure, note le Figaro, que manger sucré n'a pas d'autres effets délétères sur la santé. Ce qui est sûr, en revanche, écrit le journal, c'est que cette étude a de quoi renforcer la méfiance des nutritionnistes à l'égard des sodas et autres boissons sucrées. Oui. D'autant que, au-delà de la prise de poids, il y a d'autres risques à boire sucré. Cet été, une étude française, cette fois, pointait du doigt l'augmentation du risque de cancer. Avec 100 ml de boissons sucrées quotidiens, soit 3 canettes à peu près, on observe une hausse de 18% des risque de cancer. Toujours à propos de santé, cette enquête ce matin à lire dans le Parisien aujourd'hui en France, les Français adorent jouer les médecins, mais ils sont très mauvais en la matière.
C'est bon, ça.
Une start-up a interrogé plusieurs centaines de soignants et bilan, tous ou presque, le constate avant de consulter de plus en plus de patients s'auto-diagnostiquent sur Internet. 83% des médecins interrogés disent en faire régulièrement l'expérience. C'est donc quotidien. Problème, dans 85% des cas, la prédiction des malades est fausse. Et oui, n'est pas médecin qui veut, heureusement,
non.
J'ai envie de dire.
Oui.
Quoi qu'il en soit, il faut bien le reconnaître, on l'a tous fait, taper 2 ou 3 symptômes sur un moteur de recherche. Bon, entre nous, c'est à éviter. On tombe souvent sur le pire des cancers ou sur une maladie incurable. Ça donne aussi quelques moments de poésie extraordinaire. Le docteur Gilbert, généraliste dans les Hauts-de-Seine, en a fait un livre il y a quelques années. Et à l'occasion de cette étude, le Parisien ressort quelques anecdotes. Juste pour le plaisir, j'en ai choisi 3. Cette patiente, d'abord, qui informe le docteur que son époux a fait un coma idyllique.
Oh, idyllique,
c'est poétique.
Oui.
Il y a aussi ce petit garçon de 8 ans qui magnifie son herpès en bouton d'Hermès,
oui.
Ça aussi c'est joli. Ou encore ce monsieur très inquiet qui débarque un jour avec des douleurs au ventre en déclarant sans aucune hésitation « J'ai une douleur thoracique, constrictive, rétrosternale avec irradiation bronchiale gauche ». Étonné, le docteur lui dit « Alors, vous êtes médecin ?»« Non », répond-il. Informaticien, j'ai lu ça sur internet.
Oula.
Il repartira finalement, et heureusement pour lui, on a envie de dire, avec une ordonnance pour soigner de banales brûlures d'estomac. Enfin, si vous voulez rire encore un peu ce matin, lisez ce papier du Monde. Un délice meilleur encore que n'importe quel bonbon sucré. Les coulisses des obsèques de Jacques Chirac. Alors
ah oui.
La semaine dernière, vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce papier de l'Express qui racontait notamment ce jeune homme qui avait fait la quête pendant la messe, tendant son panier jusqu'au chef d'État étranger. Eh bien, 3 semaines après le décès de l'ancien président, les langues se délient encore un peu plus. Il y a d'abord ces couacs, ces chaises vides, notamment celle de l'ancienne présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine, décédée en mai 2018.
Oui,
l'information,
là, oui.
Écrivent Vanessa Schneider et Solène de Royer, a visiblement échappé au protocole de l'Élysée. Il y a aussi cette petite erreur, Anne Emone, l'épouse de Valéry Giscard d'Estaing, qui a été rebaptisée sur le papier et sur la chaise. Anémone en un mot, oui, oui. Il y a aussi quelques vacheries lancées ça et là quand l'assistance attend le cercueil, alors que Giscard, oui, encore lui, s'impatiente. Un membre du premier cercle de Jacques Chirac lance ceci. C'est bien la première fois qu'il est impatient de voir Jacques Chirac. Il y a aussi ce sénateur qui, assis quelques rangées derrière, glisse à son voisin. Bon, maintenant, Giscard et Balladur peuvent mourir. Ils ont, dit-il, enterré leur pire ennemi. Ou encore ces ex-ministres qui, eux, scrutent les membres du gouvernement d'Édouard Philippe. Sur 4 rangées, 2 nous étaient inconnus, raconte Jean-Pierre Raffarin. Pour la première fois de notre histoire, on ne connaissait ni l'identité ni le parcours de chacun. À la sortie, écrivent les journalistes du Monde, l'ancien ministre Jean-François Copé salue lui, celui qui lui a tout appris, y compris comment lors des porte-à-porte de campagne, il faut n'oublier personne. Cette cérémonie, lance-t-il alors, c'est la dernière du genre, la fin d'une époque, c'est fini. Dommage, on en reprendrait bien pourtant une petite gorgée, d'autant que celle-là, elle ne fait pas grossir.
C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Laurent